europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromy της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe, bienvenue en Espagne, bienvenue en Catalogne, bienvenue à Barcelone, que les touristes prennent d'assaut tout au long de l'année, puisqu'au fil du temps, Barcelone s'est imposée comme l'une des principales destinations touristiques européennes. Mais ce que les touristes peuvent difficilement percevoir, c'est que les Catalans vont entrer sous peu dans une fièvre électorale avec l'annonce par les autorités régionales de la tenue d'un référendum sur l'indépendance de la Catalogne. Voulez-vous que la Catalogne soit un État indépendant sous la forme d'une république? C'est la question à laquelle vont devoir répondre les Catalans le 1er octobre prochain. Madrid a déjà déclaré ce référendum illégal, mais les indépendantistes au pouvoir à Barcelone entendent défier le gouvernement espagnol et passer outre. Pour l'heure, les Catalans sont dans l'expectative. Ils ne se dégagent pas à Barcelone une majorité clairement sécessionniste. La Catalogne, la région la plus riche d'Espagne qui dispose déjà d'une très large autonomie, estime qu'elle paie un trop lourd tribut fiscal à Madrid. En tout cas, un éventuel succès au référendum poserait immédiatement la question de l'appartenance du nouvel État à l'Union européenne, car rien n'est prévu dans les traités européens dans une telle situation. Catalogne, une volonté d'indépendance semée d'embûches. Je vous présente les invités qui nous ont rejoints à l'Institut français de Barcelone, où nous avons posé nos micros. Elisenda Paluzzi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'économie à l'université de Barcelone. Gabriel Colomé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université autonome de Barcelone. Oriol de Balanzo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, chroniqueur, scénariste, j'en oublie encore.
Certainement. Intermittent de spectacle.
Entre autres. Et vous tenez l'antenne notamment dans une des grandes radios catalanes qui s'appelle RAC ou, et en français on est tenté de dire évidemment RAC 1.
Voilà.
Henri Laguérie, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste correspondant ici à Barcelone, mais aussi pour le reste de l'Espagne, pour de nombreux médias francophones et français. Et puis vous avez publié il y a quelques mois déjà un ouvrage très intéressant pour ceux qui s'intéressent à la Catalogne et aux Catalans. Ça s'appelle d'ailleurs Les Catalans et c'est sorti aux éditions Henri Dugier. Alors Henri de Laguérie, j'ai tout de suite envie de vous poser la première question, car vous êtes le plus biculturel autour de cette table. Quand on est français comme vous et moi, même si vous habitez Barcelone depuis longtemps, on a toujours un peu de mal à comprendre ces velléités d'indépendance parce qu'on vient d'un pays où la culture est l'état d'esprit très centralisateur. Alors, comment on peut expliquer en quelques mots simplement ce désir d'indépendance des Catalans, qui n'est d'ailleurs pas unique en Espagne, puisqu'il y a aussi les Basques, le Pays Basque, qui a aussi des velléités d'indépendance?
Alors déjà, je pense que quand on est français, on est certainement le peuple qui a le plus de mal à le comprendre à l'intérieur de l'Europe. Et donc le meilleur moyen d'arriver à le comprendre, c'est déjà d'oublier tout ce qu'on sait de la France, de surtout pas essayer de comparer avec la Corse ou la Bretagne, par exemple, parce que ça n'a absolument rien à voir. S'il faut éventuellement faire des comparaisons, c'est peut-être plus le Québec ou l'Écosse. Et ce qui est important de faire passer comme message, c'est que au-delà des opinions de chacun, c'est un mouvement qui est important. Moi, ça fait 8 ans que je suis là et j'ai vraiment vu une progression et un moment charnière en 2010. Et moi, ce que j'ai essayé de faire dans le livre et dans mes reportages, c'est d'expliquer pourquoi on était passé de 15% d'indépendantistes historiques à 45-50%, ce sentiment qui est devenu vraiment très puissant. Et aussi, c'était important pour moi de démontrer que c'est pas trois uluberlus. Il y a des gens, c'est assez divers. Il y a des gens très sérieux entre guillemets. Il y a des chefs d'entreprise qui sont favorables à l'indépendance. Et c'est relativement transversal, même si on pourra évidemment débattre.
Qu'est-ce que ça veut dire se sentir catalan? Et alors là, je vais donner la parole aux trois catalans autour de cette table. En commençant par vous, Elisenda Paluzzi. Qu'est-ce que ça veut dire je me sens catalan et pas espagnol? Alors, sachant que autour de cette table, il y a une indépendantiste, c'est plutôt vous. Gérard Colomé, vous êtes plutôt, comment on dit, un fédéraliste, c'est-à-dire pour une Catalogne au sein de l'Espagne. Et puis Oriol de Balanzo, vous avez changé. On aura l'occasion de revenir sur votre cas.
Je suis au milieu. J'étais plutôt fédéraliste. Je croyais dans la possibilité de fédéralisme en Espagne et j'ai grandi. J'ai vu que c'est impossible. Donc maintenant,
vous allez nous dire pourquoi vous êtes plutôt indépendantiste. Alors, Elisenda Paluzzi, qu'est-ce que ça veut dire? Je me sens catalane.
Je crois qu'il y aura tant de réponses possibles à cette question comme de gens qui se sentent catalans. Il y a en Catalogne. Dans mon cas, je pense qu'il y a un attachement fort, très fort à la langue catalane comme élément fondamental d'identité. Mais c'est pas le cas de tous les Catalans qui se sentent catalans. Il peut y avoir des Catalans qui se sentent catalans parce qu'ils se sentent attachés à une idée d'un type de société qui a été traditionnellement liée au travail, à l'effort. C'est aussi pluriel que ça peut être dans le cas d'autres peuples ou d'autres nations européennes. Par exemple, la France, qu'est-ce que c'est de se sentir français? Qu'est-ce que c'est la culture française? Récemment, il y a eu une forte polémique en France parce que Emmanuel Macron avait dit que la culture française n'existait pas. La culture catalane existe-t-elle? Elle est diverse, elle est variée, au même titre que la culture française.
Alors, Auriol de Balanzo, se sentir catalan, ça veut dire quoi? Ça veut dire forcément parler le catalan? Ou il y a des catalans qui ne parlent pas le catalan?
Il y a des catalans qui parlent pas le catalan et qui parlent pas l'espagnol. Donc, cette semaine, on a vu même à la première page, je sais pas si on dit comme ça, de Politico, c'est un magasin politique très important. À la première page, il y avait la photo d'un monsieur qui était né à Londres, qui est indépendantiste et qui parlait pas catalan espagnol, qui est venu habiter en Catalogne. Donc, lui, il se sent catalan maintenant, parce que je crois que l'identité sociale, c'est très difficile à décrire. Ça, comme disait Elisenda, ça peut être lié à la langue, à la culture ou à une manière de voir le monde. Et je crois que c'est ça un peu. Je regarde autour de moi et je vois des gens qui habite au monde plus ou moins comme moi.
Gabriel Colomé, alors, vous êtes barcelonais, vous êtes fédéraliste, donc on peut être catalan et fédéraliste, et vous en êtes la preuve vivante.
Oui. Si j'étais français, je serais girondin et pas jacobin, par exemple.
Oui.
Et si je prends la notion de la Révolution française, qui est l'origine de la nation, politique, on est de la nationalité française par choix. Ça, c'était la Révolution. On est devenu citoyen par volonté. C'est-à-dire que la meilleure définition pour être catalan, ça a été faite il y a 40 ans. Qui est catalan? Celui qui vit et travaille en Catalogne. C'est-à-dire tous ceux qui acceptent être de la communauté sont catalans. C'est pas un problème de langue, c'est pas un problème de culture. C'est une volonté d'être. On a un exemple très clair, qui est le troisième président de la Generalitat, qui s'appelle José Montilla, qui est né en Andalousie. Et lui, il est président de la Generalitat, pour un parti socialiste, et il est catalan parce qu'il a voulu décider. Il a choisi d'être catalan. Et c'est le meilleur exemple d'intégration dans une communauté plurielle, très révolutionnaire française, et parfois il y a des jacobins et des girondins dans la même société.
Alors le président du gouvernement autonome de Catalogne, je ne sais pas si je vais correctement prononcer son nom, mais vous allez me reprendre immédiatement si je dis mal, Carles Puigdemont. En tout cas, il a annoncé solennellement le 9 juin dernier la tenue d'un référendum sur l'indépendance. Il se déroulera le 1er octobre. Madrid, je l'ai dit déjà, a refusé ce référendum. Il l'a jugé illégal. Et j'ai rencontré Raoul Romeva. Il est conseiller aux affaires extérieures de la Généralité de Catalogne. Si un jour le pays devenait indépendant, il serait ministre des affaires étrangères de la Catalogne, pour bien situer. Et je lui ai demandé si, malgré la déclaration de Madrid, les indépendantistes catalans allaient organiser ce référendum envers et contre Madrid.
On n'a pas le choix. On doit le faire. On a essayé, en fait, dizaines, centaines de fois, de faire un référendum accordé. On a fait des centaines de propositions. On a mis des centaines de propositions sur la table. La réponse que nous avons eue toujours du côté de l'État, pas que du PP, de l'État.
Le Parti Populaire, le parti qui gouverne majoritairement à Madrid.
Voilà, le Parti Populaire, c'est toujours de l'attaque, de la menace, on nous amène aux tribunaux, c'est ça la réponse. Proposition, zéro. Offre, zéro. Dialogue, zéro. Alors, nous sommes obligés à faire ça le 1er octobre parce qu'on a tout essayé d'abord. On est allé 18 fois minimum au Congrès des députés, c'est-à-dire le Parlement espagnol, a demandé de faire un référendum accordé. est-ce qui est parfaitement possible dans la constitution actuelle. Parfaitement possible. C'est parfaitement légal, on peut le faire. Dans ce discours que nous écoutons toujours du côté de l'État, de dire non, vous ne pouvez pas faire ça parce que c'est illégal, c'est faux. Il y a plusieurs documents signés par des juristes très compétents qui expliquent très, très précisément comment ça peut être fait. Donc c'est ça que nous demandons. Démocratie, évidemment, dans les cadres de la légalité, est ce qui est possible.
Alors Henri Delagri, au début de cette émission, vous nous avez expliqué, quand je suis arrivé, il y avait environ 15% de Catalans qui étaient indépendantistes. Aujourd'hui, on ne sait pas combien ils sont, mais ils sont plus de 40%, en tout cas, ça on en est à peu près sûr. Ce qui explique cette montée de l'indépendantisme, quelle est la part de l'attitude du gouvernement de Madrid dans la montée de cet indépendantisme? Bon, évidemment que c'est un dialogue de sourds depuis très longtemps. Entre Madrid et Barcelone.
Oui, non, le conflit, il existe depuis toujours. Et sans rentrer en trop de détails, il y a vraiment un moment clé, c'est l'été 2010. Les années précédentes, un accord, bon an, mal an, les statuts, un nouveau statut pour l'autonomie de la Catalogne, il avait été voté à Barcelone, puis à Madrid. C'était pas le meilleur texte pour les Catalans, c'était sans doute pas le meilleur texte pour le reste de l'Espagne, mais c'était un texte de compromis, finalement, qui redéfinissait un peu les compétences de la Catalogne. Et 4 ans après avoir été voté, en 2006, en 2010, il était rejeté par le tribunal constitutionnel après un recours présenté par la droite espagnole. Et c'est à ce moment-là que je crois beaucoup de Catalans qui croyaient possible une bonne entente de la Catalogne au sein de l'Espagne et trouver finalement sa place. Ils se sont dit bah finalement il y a rien à faire. Même ça ils veulent pas ce texte alors qu'on y était tous à peu près d'accord. Donc voilà, c'est à ce moment-là qu'il y a beaucoup de gens qui vont vers l'indépendantisme. Et effectivement on dit souvent que le Parti populaire est une usine à fabriquer des indépendantistes. C'est vrai que ça fait déjà plusieurs années que la droite au pouvoir aurait pu faire baisser un petit peu la pression. J'ai le sentiment que pour beaucoup de gens, maintenant, c'est trop tard. Pour une partie des Catalans, j'essaie toujours de jamais parler en général des Catalans, parce que c'est... Mais c'est vrai que on aurait pu éviter d'en arriver là depuis pas mal de temps si le Parti populaire, un, avait pris au sérieux ce qui se passait ici. Parce qu'ici, les indépendantistes ont beaucoup travaillé, et pendant des années, Madrid a absolument pas travaillé et a nié ce qui était en train de se passer ici, en disant « ça n'existe pas ». Et il n'a fait que envoyer des messages que des messages uniquement négatifs, alors qu'il y a une partie des indépendantistes qui ne veut rien négocier, mais il y a peut-être une partie des Catalans qui, si on leur avait fait une offre intéressante, aurait peut-être reculé ou vu les choses autrement.
Alors, je crois que Henri Delagri a fait référence au Parti populaire, mais le PSE, le Parti socialiste ouvrier espagnol, qui a aussi été au pouvoir de nombreuses années, n'a pas mieux compris, me semble-t-il en tout cas, la problématique catalane vue de Madrid.
À peu près, je dirais pas à peu près, ils ont fait une chose très importante. C'est-à-dire que le statut de 2006 se fait sous gouvernement socialiste. C'est vrai que le statut de 2006, c'est un statut, à différence de celui de 79, qui était vraiment très généraliste, parce que personne ne savait comment allait évoluer l'autonomie en Catalogne, en Espagne. C'était le premier avec le Pays Basque. En Catalogne, au Parlement catalan, ils ont fait un statut de 246 articles. C'est-à-dire ils sont descendus jusqu'au minimum pour éviter... que le tribunal constitutionnel soit saisi pour faire des recours. Rappelons-nous le contexte. Le Parti populaire perd les élections après une mauvaise gestion de communication, après l'attentat du 11 mars. Ils se voyaient au gouvernement, ils sont passés à l'opposition. C'est-à-dire que le Parti populaire trouve un point faible pour attaquer le gouvernement espagnol, socialiste, et commence une campagne très très énergique contre, pas le statut, sinon la Catalogne, les Catalans.
Est-ce que c'est à ce moment-là, dans ces années, autour des années 2010, que vous avez changé? Vous étiez sur une position plutôt fédéraliste, c'est-à-dire une place de la Catalogne dans l'Espagne, et vous êtes devenu petit à petit indépendantiste. Est-ce que c'est un moment de bascule?
C'était un peu avant, mais c'est pour le même motif. En fait, c'était ça. C'est-à-dire, en Catalogne, en 2003, on avait un gouvernement socialiste, et en 2004, on avait un gouvernement socialiste jeune à Madrid, et même avec cette situation, on va dire, idéale pour le fédéralisme, ça n'a rien changé, ils ont tout coupé. Et en tout cas, je me suis rendu compte en ce moment que l'Espagne ne change jamais. l'État espagnol, à la même manière de penser le territoire espagnol depuis je sais pas combien d'années, même avant que la Catalogne et l'Espagne ont de lois conjointes. Parce que Henri a super bien dit au départ, de la France, j'ai habité à Paris il y a 10 ans, on a toujours la sensation que l'Espagne c'est comme la France mais plus petit et plus chaud, et c'est pas ça. C'est plus complexe que ça, et ça a été pas l'Espagne c'est un contexte et un concept très moderne en fait, et même maintenant il y a des lois en Catalogne qui restent pas en Espagne, et la loi civile catalane ça reste toujours à part de l'espagnol, donc on n'a pas été espagnol depuis toujours, on va dire ça.
Alors, Elisa n'a pas l'usé. Une réponse assez brève, je vous demande pas de répondre. Forcément, Gérard Colomé. Non, mais la dépendance catalane, pourquoi? Parce que l'Espagne est irréformable, irréformable.
Je voulais, c'est bien parce que ça me permet de répondre aussi un peu à lui. Quand il a dit que les socialistes ont cédé déjà à cette pression. C'est-à-dire, quand il y avait le débat de la réforme du statut d'autonomie, on avait approuvé au Parlement de la Catalogne par 90% des voix, les socialistes, le centre droit catalaniste, la gauche indépendantiste, la gauche ex-communiste, 90, à l'exception du Parti populaire. On avait approuvé un projet de statut d'autonomie qui disait dans son article 1 que la Catalogne était une nation. Et ça, c'est très important. C'était très, très, très important. Et qui disait que la Catalogne allait prélever tous les impôts comme fait le Pays Basque, mais qu'à différence du Pays Basque, elle allait financer aussi bien les services publics de l'État espagnol qu'une partie pour la solidarité avec les autres régions, ce que les Basques et les Navarres ne font pas. Ce projet a déjà été tombé à Madrid parce que Zapatero, qui avait dit avant qu'on commence la réforme du statut, avait dit « je vais accepter le projet de statut que les Catalans me porteront. S'il y a une majorité en Catalogne, je l'accepterai ». Zapatero n'a pas pu tenir la pression. Et finalement, il a fait un accord avec le centre droit catalaniste, avec beaucoup de politiques politiciennes, parce que au milieu, Artur Mas avait eu la parole de Zapatero qu'il serait président s'il gagnait les élections. Bon, c'était des choses de politique politicienne. La gauche indépendantiste est sortie de l'accord, et il n'y a pas eu nation à l'article 1 du statut d'autonomie, et on a arrêté de prélever les impôts.
Lisa n'a pas lu, vous avez évoqué quelque chose d'important, c'est le rapport fiscal. Je vais demander à Henri de Laguérie de synthétiser tout ça. Un des reproches que les Catalans indépendantistes font à Madrid et aux Espagnols, au gouvernement de Madrid en tout cas, c'est de payer beaucoup d'impôts et de ne pas avoir grand-chose en retour, en tout cas pas suffisamment. C'est important en quelques mots.
Oui, en quelque sorte, c'est vrai que depuis la France, on se dit, bon, bah, la Catalogne, c'est une des régions qui a le plus d'autonomie en Europe. Mais c'est vrai que c'est une autonomie un petit peu bancale parce que finalement, on a toujours le sentiment que Madrid a cédé du pouvoir aux régions, mais vraiment à contre-cœur. Et donc, finalement, la Catalogne, comme la plupart des régions en Espagne, ont beaucoup de compétences locales. Mais finalement, l'argent, il est géré par Madrid. Donc, c'est un peu compliqué. On a une autonomie. Et en même temps, on n'a pas vraiment l'argent pour le faire. Enfin, on n'a pas l'autonomie sur l'argent. Et par ailleurs, il y a ce sentiment effectivement que la Catalogne donne beaucoup au reste de l'Espagne et n'a pas forcément autant en retour. Surtout ce sentiment que c'est vrai que Madrid fait pas tout pour développer économiquement parlant la Catalogne. Il y a, par exemple ici on parle énormément d'infrastructures. Le métro a mis beaucoup de temps à arriver à l'aéroport de Barcelone. Il y a ce projet qui tient à cœur beaucoup d'entrepreneurs d'un couloir méditerranéen, un train qui irait en gros du Rhône et qui longerait tout le pourtour méditerranéen jusqu'à Gibraltar. Et Madrid n'en veut pas. On a souvent l'impression que ce qui est...
C'est couloir méditerranéen, ça passe pour Madrid. Et comme voilà. Tout le monde sait, la Méditerranée, ça passe pas trop proche de Madrid.
Excusez-moi. On a compris les différents. En tout cas, on commence à comprendre les différents entre les indépendantistes et les fédéralistes, qu'on pourrait aussi baptiser les unionistes si ça nous aide à mieux comprendre. On va revenir sur ces problèmes catalano-catalans. On va faire une pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Le temps de prendre connaissance des dernières nouvelles de la planète. Et on se retrouve à Barcelone dans 3 minutes. À tout de suite.
Cruzamento da Europa.
Rescrucia Europei.
Stavrodromitis Europis.
Treffpunkt Europa. The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Guillaume Meunier.
Rebonjour Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Si vous nous rejoignez, nous sommes à Barcelone, capitale de la Catalogne. Voulez-vous que la Catalogne soit un État indépendant sous la forme d'une république? C'est la question à laquelle vont devoir répondre les Catalans le 1er octobre prochain lors d'un référendum que le gouvernement de Madrid a déjà déclaré illégal. Je vous représente les invités qui nous ont rejoints à l'Institut français de Barcelone. Elisenda Paluzzi, elle est professeure d'économie à l'Université de Barcelone. Gabriel Colomé, professeur de sciences politiques à l'Université autonome de Barcelone. Auréal de Balanzo, il est journaliste chroniqueur, notamment à la radio RAC 1, on dit RAC ou en catalan. Et Henri Delaguerie, journaliste correspondant de nombreux médias français et francophones. Il est l'auteur d'un ouvrage paru aux éditions Henri Dougier, Les Catalans. On apprend beaucoup de choses en le lisant. Alors Henri Delaguerie, si je résume un peu, il y a deux légitimités qui s'affrontent. Une légitimité constitutionnelle brandie par Madrid et puis une légitimité démocratique que revendiquent les Catalans et notamment le gouvernement autonome de Catalogne. On ne peut pas s'entendre dans ces conditions.
Oui, enfin, c'est même plutôt la légalité, le choc légalité versus légitimité. Et ça fait déjà pas mal d'années que ça dure. Et effectivement, ça fait plusieurs années qu'on dit qu'il y a deux trains qui vont rentrer en collision. Et j'ai le sentiment que là, on en est quand même à la phase finale. Du moins, espérons, en tout cas, quelle que soit l'issue de ce qui va se passer. Parce que je pense qu'autour de la table, tout le monde a envie de passer à une étape suivante. Que ce soit aller vers une négociation d'indépendance, soit une réforme de l'Espagne, parce que ça fait 3-4 ans quand même qu'on en est avec le même sujet. Et même les indépendantistes autour de cette table, je pense qu'ils en ont assez de parler de ce sujet. Et je sais même que Oriol, par exemple, il me dit souvent, moi je veux l'indépendance juste pour arrêter d'en parler, d'avoir à me justifier, de me justifier sans cesse. Voilà.
Et après j'inviterai à notre part. J'ai partagé de la Catalogne, j'en aurais marre de Catalans et de tout le monde.
À Madrid, en Espagne.
Pourquoi pas?
Alors, sur le thème de l'indépendance, Henri Delaguerie, vous l'avez signalé dans la première partie de l'émission, quand vous êtes arrivé il y a 8 ans, il n'y avait pas beaucoup d'indépendantistes, plus ou moins 15%, il y en a une quarantaine de pourcents. Néanmoins, les derniers sondages, un sondage, ça vaut ce que ça vaut, mais un sondage qui a été publié il y a quelques semaines, donne environ 48% des Catalans contre l'indépendance et environ 44% contre l'indépendance. Ça veut dire qu'il y a une douzaine de pourcents d'indécis. Est-ce que vous avez l'impression que les partisans de l'indépendance peuvent être de plus en plus nombreux? Et est-ce que la politique des indépendantistes est de pousser Madrid à l'erreur?
Je vais essayer d'aller vite pour surtout laisser parler les Catalans à cette table. Ce qui est vrai, c'est qu'on a le sentiment d'une espèce de match nul entre les gens favorables à l'indépendance et ceux qui soit sont hostiles, soit sont indifférents, parce que on entend énormément, et médiatiquement parlant, ils sont assez présents, les indépendantistes, en Catalogne, médiatiquement dans les médias catalans. Et c'est vrai que parfois, il y a une grande partie, enfin peut-être une moitié ou 40% des Catalans qui sont hostiles ou s'y intéressent peu et qui, évidemment, se mobilisent pas tellement. Il y a des associations qui font des manifestations où ils sont très peu nombreux et ils sont très peu représentatifs. Parfois, d'ailleurs, les indépendantistes ont tort de minimiser en se moquant de la faible participation à ces manifestations, parce que lorsqu'il y a des élections avec des résultats qui pourraient avoir des conséquences, là, à ce moment-là, les adversaires d'indépendance se mobilisent. Et donc, depuis 4 ans, on a le sentiment d'un espèce de match nul où les positions évoluent pas énormément. L'indépendantisme a peut-être du mal à aller au-delà de, notamment à toucher les banlieues populaires de Barcelone où il y a beaucoup d'indépendantisme, mais ça reste, voilà, une idée qui est pas forcément, qui va pas forcément de soi. Et pour terminer sur cette histoire d'est-ce que les indépendantistes cherchent à ce que Madrid commette une faute, c'est une stratégie, il y a une partie de l'indépendantisme qui peut-être cherche ça, en se disant on va aller jusqu'au bout de ce référendum, on sait que c'est illégal et on sait que Madrid de toute façon va en empêcher, mais s'il y a la Guardia Civil qui enlève les urnes le jour le 1er octobre et qu'il y a des photos dans la presse internationale, ça va peut-être faire bouger les consciences à l'étranger et faire en sorte que ce qui est considéré par Bruxelles comme une question interne à l'Espagne devienne enfin un conflit diplomatique au sein de l'Europe.
Alors néanmoins, Elisenda Paluzzi, jusqu'alors, il n'y a jamais eu une majorité indépendantiste en Catalogne.
Il n'y avait pas de démocratie. Voilà. On ne peut pas savoir s'il y avait de majorité.
Il n'y avait pas de sondage.
Il n'y avait pas de sondage ni d'élection. La République française est beaucoup plus ancienne que la démocratie en Espagne. La démocratie en Espagne, c'est quelque chose de très récent. Non, moi, je voulais commenter qu'on parle de sondage et ce match nul de sondage, mais on a eu, on a eu une vraie élection sur le sujet de l'indépendance, axée autour de l'indépendance, c'est les dernières élections au Parlement catalan.
En 2015.
Et le match est pas nul. Le match a donné 48% des voix pour les partis qui étaient explicitement pour l'indépendance, 39% des voix pour les partis qui étaient contre l'indépendance, explicitement contre, c'est-à-dire la droite espagnole, les Ciudadanos, les libéraux et Parti Socialiste, et 12% de voix pour Podemos et des coalitions qui défendaient le référendum et qui n'ont pas dit le principe du référendum et qui ont dit nous on dit pas si on est indépendantiste ou pas parce qu'à l'intérieur on a des indépendantistes et des gens qui sont pas pour l'indépendance.
Alors, donc 48% ça n'a jamais fait une majorité. Hein.
Non, mais le non c'est pas 52. Le non est pas 52. Le non est 39. Le 12% est pas non.
Statistiquement, c'est une tricherie. Pourquoi ? Parce que les élections étaient prévues dans une logique qui n'existe pas dans un système démocratique, c'est-à-dire des élections plébiscitaires. En système démocratique, les plébiscitaires n'existent pas, sauf, Maurice Duverger l'a écrit, à l'Union soviétique. C'est-à-dire que nous ne sommes pas à l'Union soviétique. C'est-à-dire qu'il y a eu un parti, une coalition, qui a dit « cette élection sera plébiscitaire, c'est le référendum » qu'on ne nous a pas laissé faire. Et ils ont posé la question, plébiscitaire, qui est favorable à l'indépendance ? 47,8. 39% pour la coalition, 39% de la coalition, plus un parti anti-système, anti-européen, qui est la coupe.
Alors, je vais essayer d'expliquer deux mots.
Les Français vont penser que vous parlez d'un Front National, et c'est juste le contraire. C'est un parti mélenchoniste.
Je vais reprendre. Je ne vais pas dire ça.
C'est un parti anti-système, d'extrême gauche, anti-système, anti-européen, etc. Pour finir, 47,8, 52,2. Ça, c'est un plébiscite. Ça, c'est un référendum. Commencez avec la nuance. La nuance qui n'était pas dans la campagne. La nuance, le soir même, la coupe a dit « on a perdu ». Mais, regardez, comment les indépendantistes changent leur argument. On n'a pas eu la majorité pour le plébiscite, mais maintenant on a un mandat démocratique pour l'indépendance. Pardon ? C'était où ça dans votre programme ? En même temps, dans le programme qui a gagné les élections, il n'y avait pas de référence au référendum. Ça, c'était un élément du programme du parti anti-système d'extrême-gauche. C'est très intéressant parce que chaque fois que le secteur indépendantiste perd, il change d'argument.
Écoutez, s'ils ont perdu, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils gouvernent et qu'ils pourraient déclarer l'indépendance à la majorité des députés au Parlement de la Catalogne.
Je vais parler sous le contrôle d'Henri de Laguérie, qui est le plus français autour de cette table, à part moi évidemment. Cette coalition qui gouverne aujourd'hui la Catalogne, en gros, elle va des libéraux, en passant par la gauche démocratique jusqu'à l'extrême gauche. Hein, voilà, tout le monde est d'accord autour de cette table. J'en suis extrêmement content. Je voudrais rebondir avec Auriol de Balonzo qui a dit j'ai hâte qu'on vote pour l'indépendance de façon qu'on n'en parle plus. Ça m'invite à vous poser cette question, Auriol. Est-ce qu'il n'y a pas un côté extraordinairement nombriliste des Catalans ? Je reprends 7 milliards d'individus autour de cette planète, 500 millions d'Européens, un peu moins avec le départ des Britanniques, et puis 7 500 000 Catalans qui, une fois qu'on a dit qu'il faisait très très chaud pour la saison, que Barcelone était envahie par les touristes... Dès qu'on prononce le mot indépendance, tout de suite, on l'a bien compris autour de cette table, les paroles, les propos s'enflamment. Est-ce que l'indépendance catalane, à l'image de ce qui se passe dans le monde, c'est pas grand-chose, Auriol de Balonzo.
Ouais, c'est une grand-chose pour nous, parce que en fait, il y a une chose que les Catalans aiment beaucoup, c'est que on parle de nous. Pourquoi ? Parce que ça fait 300 ans au moins qu'on essaie d'être quelque chose. Et vous avez vu maintenant une photographie parfaite de ce qu'a été le média catalan depuis 7 ans, on va dire. Mais c'est plus facile que tout ça. Il y a toujours la discussion si cette élection de 2015 a donné la parole aux nationalistes, à l'extrême gauche indépendantiste pour faire je sais pas quoi. On peut dire qu'on a changé de sujet parce que on avait dit qu'on était déjà indépendant, mais maintenant on peut faire un référendum. D'accord. Pour moi, c'est plus simple. C'est on arrête de discuter, on vote. Et on se compte, un homme, une femme, un vote. Et si c'est plus de 51%, on est indépendant. Et voilà, c'est moins dramatique que ça. On s'énerve, on discute, mais en tout cas, le catalan, c'est toujours la fête de discuter. Hein, vous inquiétez pas. Mais c'est plus simple que ça et c'est moins dramatique. Mais le problème, c'est qu'on a les moyens facilement démocratiques de résoudre tout ça, c'est en votant.
Il y a un problème d'interprétation sur le 52%, le 12%. Le référendum, c'est le système qu'on a inventé pour trancher sur des questions fondamentales avec une question précise, concrète. Cette fois-ci, elle l'est. Finalement, on a une question précise sur l'indépendance, oui ou non, et c'est le droit d'autodétermination qui s'exercera en Catalogne. C'est aussi simple que ça. C'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est les Catalans qui doivent décider sur le statut juridique et politique qu'ils veulent, et c'est tout. C'est très simple.
Le problème, c'est, et la grande exclusion de fond, c'est qu'il y a des gens en Catalogne qui pensent que le Catalan peut décider pour soi-même. Il y a des gens qui disent non, c'est avec l'Espagne qu'on doit décider. Donc en fait, c'est si on a la souveraineté comme Catalan pour décider ou pas. Et c'est ça le problème. Si tu dis oui, donc on vote et on fait une nouvelle loi pour pouvoir voter, et pas de problème. Mais si tu dis on doit discuter ça avec l'Espagne toujours, ça pose un problème parce que la souveraineté c'est pas des Catalans mais c'est que des Espagnols. Et avec ça, c'est impossible de discuter. Voilà.
Elisenda et Oriol ont dit une chose qui est tout à fait inexacte et on ne peut pas les laisser passer. C'est-à-dire, la Catalogne n'a aucun droit à l'autodétermination. Nous ne sommes pas une colonie. Et Nations Unies reconnaît seulement la décolonisation. Mais on a 5 ans.
La Lituanie et l'Estonie étaient des colonies, monsieur Colomé. Est-ce que la Lituanie était une colonie? Est-ce qu'elle a fait un référendum d'autodétermination?
Vous voyez ce qui se passe en Catalogne?
En comprenant que la passion qui anime cette table autour du thème de l'indépendance, Carrefour de l'Europe, nous sommes à Barcelone.
RFI à Barcelone, 105.3 FM.
Carrefour de l'Europe, nous sommes à Barcelone. Sur le thème de l'indépendance, qui, vous l'avez compris, enflamme les esprits autour de cette table, je vous représente rapidement nos invités. Elisenda Peluzzi, elle est professeure d'économie à l'Université de Barcelone. Gabriel Colomé, professeur de sciences politiques à l'Université autonome de Barcelone. Royal de Balanzo, journaliste et chroniqueur. Et Henri de Laguerie, journaliste et notamment l'auteur aux ateliers Henri Dougier d'un livre qui s'appelle « Les Catalans ». Alors, la Catalogne, 7,5 millions d'habitants, 16% de la population espagnole, 20% du PIB, 30% des exportations. Je m'adresse à la professeur d'économie, est-ce que la Catalogne est vivable en dehors de l'Espagne, Elisenda Peluzzi?
Comme plein de pays en Europe qui ont un PIB semblable, c'est un PIB en total qui est entre celui de la Finlande et celui du Danemark, avec une base industrielle assez forte, beaucoup d'exportations. La Catalogne exporte énormément et elle maintient une industrie qui représente le 20%. C'est plus industriel la Catalogne que la France. C'est donc un pays de niveau de revenu moyen européen du sud de l'Europe. C'est un pays riche au sud de l'Europe et de niveau moyen comparé à d'autres pays européens.
Gabriel Colomé, est-ce que l'Espagne peut vivre sans la Catalogne?
L'Espagne pourrait vivre sans la Catalogne, mais sans le 20% du PIB, c'est vraiment très très compliqué. Et on fait un peu de science-fiction en disant, je prends la Catalogne et je regarde à partir de sa richesse où se met dans l'Europe. Mais sa richesse est interdépendante. L'Espagne et la Catalogne sont interdépendantes depuis la révolution industrielle, depuis que les Catalans ont fait la révolution industrielle. C'est-à-dire que dire que l'Espagne, sans le 20% du PIB, peut vivre, c'est possible. Dire que ce 20% du PIB est un petit État très riche, industriellement, plus fort que la France, pourrait vivre, théoriquement, oui. Dans la pratique, non. C'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on est en train de regarder les numéros. Mais on n'est pas en train de regarder quelles sont les interdépendances de cette économie dans l'Union européenne et dans l'Espagne. Et le grand sujet, c'est que les indépendantistes disent « Si on a l'indépendance, on restera dans l'Union. » Ou en tout cas, on sera partenaire de l'Union.
Évidemment, extrêmement
important. Mais ça, c'est l'économie.
Hein, Henri Laguerie, oui. Le risque pour l'Espagne, c'est évidemment que si la Catalogne devient indépendante, ça donne des idées, par exemple, aux Basques.
Oui, c'est évident. Si y a un référendum qui se fait en Catalogne, pacté avec Madrid, il n'y a pas de raison qu'à un moment ou à un autre, les Basques ne demandent pas la même chose. Au-delà des chiffres économiques et au-delà de peut-être d'avoir un débat de droit public, etc., je pense que l'Espagne aurait quand même énormément à perdre sans la Catalogne. Au-delà de chiffres, il y a aussi tout un tas d'aspects culturels. Il y a de très grands sportifs, évidemment, l'équipe d'Espagne de football. Ça semble anecdotique, mais c'est pas rien. Il y a la moitié de l'équipe d'Espagne qui est catalane ou un tiers. Il y a beaucoup de talents, de valeurs ajoutées. Et c'est pour ça que moi, ça me surprend.
Et puis, accessoirement, contre qui jouerait le club de Barça? Évidemment, ils joueraient tout seuls.
Juste pour dire que quand on voit 20% du PIB, dire 20% du PIB, ça permet pas de se rendre compte de toute l'importance que peut avoir la Catalogne. N'oublions pas que c'est l'entrée de l'Espagne, c'est l'ouverture vers la Méditerranée, c'est un aéroport et c'est la région la plus touristique d'Espagne. Et c'est aussi beaucoup de talent et de valeur ajoutée. C'est-à-dire le PIB à forte valeur ajoutée, il est plus important que 20% en Catalogne. Donc c'est pour ça que je suis surpris depuis des années de voir les discours d'une partie de l'État espagnol et du gouvernement, parce que juste pragmatiquement, Madrid a quand même tout intérêt à garder la Catalogne.
Il y a évidemment le risque d'éclatement de l'Espagne, et puis bien sûr se poserait immédiatement la question de l'appartenance de la Catalogne à l'Union européenne. Quelle serait l'attitude de l'Union européenne en cas d'indépendance catalane? J'ai posé la question à Christian Lequen, il est professeur de sciences politiques à Sciences Po Paris.
Je pense que les institutions européennes, la Commission en particulier, comme l'ensemble des États membres, bien sûr, prendrait acte d'une éventuelle indépendance catalane qui serait négociée dans le cadre interne de l'Espagne. Mais en même temps, on ne peut pas dire qu'il y ait un véritable soutien, loin de là, pour deux raisons. La première, c'est que on est quand même dans un système diplomatique, et dans le système diplomatique, fût-il supranational, on n'aime pas les sécessions d'État. C'est quelque chose qui dérange, si vous voulez, la structure, puisque la structure, elle est basée quand même sur le concept de l'État membre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on a eu quand même énormément de crises en Europe depuis 10 ans. Ça a commencé avec la crise économique et monétaire, puis il y a eu les réfugiés, puis il y a eu le Brexit. On n'est pas tellement, à mon avis, demandeur d'une autre crise qui viendrait d'une sécession catalane au sein de l'Espagne. Donc effectivement, je crois qu'on peut dire que la réaction des institutions européennes comme des États membres, elle est plutôt conservatrice.
Concrètement, ce serait très très difficile à négocier pour les Catalans, car il n'y a pas d'automaticité à rester au sein de l'Union européenne sous prétexte qu'on vient d'un pays qui est membre de l'Union européenne.
Non, il n'y a pas de précédent. Et là-dessus, il y a eu quand même des déclarations qui ont été faites par un certain nombre de commissaires européens qui ont toujours dit qu'il faudrait mener des négociations d'adhésion comme si on était un État tiers, c'est-à-dire au même titre que n'importe quel État voulant entrer dans l'Union européenne. Alors bien sûr, on pourrait se dire que ça irait relativement vite, puisque la plupart des normes, la législation, est déjà adaptée au contexte européen. Mais à mon avis, il faudrait quand même une négociation classique pour respecter les traités.
Henri de Laguerie, ce débat de l'appartenance à l'Union européenne, autour du thème de l'indépendance, il est vraiment dans les priorités des débatteurs, qu'on soit indépendantiste ou au contraire fédéraliste.
C'est un débat infini que je vous conseille pas d'ouvrir complètement ici aujourd'hui,
parce que c'est un
débat infini. Non, la réalité, c'est que ça s'est jamais produit. Donc chacun a ses arguments et je vais pas faire l'arbitre. Ce qui est vrai, c'est que c'est une préoccupation très importante, parce que les Catalans sont très pro-européens. Et toute l'Espagne, d'ailleurs, reste encore très europhile, mais je dirais qu'en Catalogne, encore plus que dans le reste de l'Espagne. Et dans les manifestations indépendantistes, il y a toujours des drapeaux indépendantistes, bien sûr, mais aussi beaucoup de drapeaux européens. Et c'est ça qui peut être déroutant à l'étranger. C'est-à-dire, voilà des gens indépendantistes, donc égoïstes et qui veulent pas payer pour le reste, mais en même temps, ils sont européens. Donc ça permet aussi de se rendre compte que ce mouvement, il est plus complexe et on ne peut pas forcément le comparer à d'autres en Europe.
Et puis il y a une question qu'il faut se poser, c'est est-ce le bon moment pour lancer une consultation de ce type ? Je m'explique. Côté géopolitique internationale, l'élection de Donald Trump, ça crée évidemment quelques incertitudes. Le maintien au pouvoir de Vladimir Poutine, ça reste une menace pour l'Europe. Et puis côté européen, le Brexit, qui est une aventure qui commence seulement, qui va durer des mois, et Christian Lequen nous le rappelait, c'est quand même un gros problème pour l'Union européenne. Et puis on peut noter, par exemple, le resserrement du lien franco-allemand depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Alors, ce problème catalan, est-ce que c'est pas un problème de plus pour l'Union européenne ? Est-ce que c'est le bon moment pour poser cette question ? Je veux dire par là qu'on est plutôt, compte tenu de ce contexte géopolitique et international et européen, plutôt vers un renforcement de l'Union européenne que vers un morcellement. Eh bien, j'ai voulu savoir ce qu'en pensait Raoul Romeva. Je vous rappelle qu'il est conseiller aux affaires extérieures de la Généralité de Catalogne.
Ce n'est pas contradictoire d'avoir un nouveau État dans l'Union européenne. Et j'insiste, depuis les années 90, il y a 30 nouveaux pays dans le monde. Au niveau européen, quand j'étais né, l'année 71, il y avait 6 pays. Aujourd'hui, ils en sont 28.
Bientôt 27.
Bientôt 27. En tout cas, on ne peut pas baser des décisions politiques au court terme. Oui, les circonstances au court terme sont telles quelles. Mais la possibilité d'avoir un nouveau pays dans l'Union européenne, comme la Catalogne, qui est économiquement, socialement, politiquement, géopolitiquement, géostratégiquement absolument utile à l'ensemble de l'Union européenne, ce n'est pas un problème pour personne. Pour personne, c'est une opportunité. Donc c'est où les problèmes ? Au niveau pratique, ils n'existent pas. C'est une question plutôt émotionnelle, mais pas pratique, pas du tout. Ce n'est pas un problème, pas pour la Catalogne, pas pour l'Espagne, pas pour l'Europe. Il y a en tout cas un débat émotionnel. Ça, je peux le comprendre. Mais mettons le débat sur ces points, pas sur les questions pratiques. Parce que sur les questions pratiques, on doit quand même assumer que les situations évoluent. Et les pragmatismes s'imposent. On disait toujours, bon, est-ce que si on fait l'enlargement, ça sera le chaos de l'Union européenne ? Bon, il y a des choses qui marchent mieux, d'autres qui marchent pire, c'est clair. Mais pour ceux qui défendons les projets européens, ce qui est mon cas, je dois dire que c'est précisément la présence de l'Union européenne qui nous permet aujourd'hui de faire ces débats et de faire cette action démocratique qui est le vote en référendum, et même pour résoudre les problèmes. Parce que tous ceux qui nous disent, mais on ne veut plus un autre problème sur la table, mais les problèmes existent, et on veut continuer à être européen. C'est ça.
Alors là, on va tenter quelque chose d'incroyable, on va essayer de donner une minute, et une seule minute, aux invités autour de cette table, pour un petit mot de conclusion. Elisenda Paluzzi, ça va changer quoi cette indépendance, et est-ce qu'elle est finalement vivable ?
Ah bon. Je pense que cette indépendance va faire que les Catalans, les Espagnols, dans quelques années, s'entendent beaucoup mieux qu'ils ne s'entendent aujourd'hui. Comme les Suédois et les Norvégiens s'entendent très bien aujourd'hui. Et en 1905, c'est la Norvège qui s'est indépendisée de la Suède. L'Union européenne a tout intérêt à qu'on fasse pas l'indépendance, mais je vais citer Yves Gounin, un membre du Conseil de l'État de la République française, qui a écrit sur politique étrangère qu'une fois cette indépendance est faite, si cette indépendance est faite, tout l'intérêt de l'Union européenne, c'est à faire que la Catalogne continue à appartenir à l'Union européenne.
Bravo, vous êtes tenu une minute. Oriane de Balanzo.
Avoir l'indépendance maintenant, dans ces contextes de crise, vous disiez, c'est un bon moment. C'est comme pour ma génération d'avoir un enfant, c'est jamais un bon moment. Mais quand même, on les a, les enfants. Et je dirais, pour l'indépendance, pourquoi pas? Je suis pour l'indépendance parce que c'est une possibilité d'habiter et de vivre mieux. Nous et le reste de l'Espagne. Et je crois que l'Espagne a besoin d'une super crise pour supérer le moment politique de maintenant. Et je crois que c'est une opportunité pour la Catalogne et pour l'Espagne.
Gabriel Colomé, Elisenda Paluzzi a dit, bon, avec l'indépendance, finalement, les Espagnols et les Catalans vivront mieux ensemble.
Oui, bien sûr, il n'y aura pas d'indépendance. Et comme il y aura une grande crise, finalement, on aura la réforme constitutionnelle fédérale que ce pays a besoin. Nous avons une constitution de 78, il y a 40 ans, et la nouvelle génération a besoin de faire un nouveau pacte de convivance. Et ça, c'est la réforme constitutionnelle fédérale, pas l'indépendance. La Catalogne n'a jamais été indépendante dans toute son histoire. Mais ça, c'est une autre histoire aussi.
Henri de la Guérinelle, le mot de la fin, est-ce qu'on a un peu avancé ? On sent bien que les problèmes sont à vif, qu'ils passionnent l'avenir de la Catalogne.
Alors, c'est extrêmement difficile de faire des prévisions, et je pense qu'autour de cette table, personne peut vraiment en faire. J'ai le sentiment que tout est possible, et je peux pas dire, comme Réal Colomé, que ça n'arrivera pas. Pour être très honnête, j'ai du mal à le savoir. Ce que j'aimerais qu'on n'oublie pas, c'est peut-être le début de l'émission. Évidemment, ici, il y a des gens qui ont des opinions complètement opposées. Et en même temps, il y a autour de cette table des gens qui se sentent tous catalans. Et ça, c'est important. Et c'est vrai que parfois, peut-être dans ce débat indépendantiste, il y a peut-être des catalans qui ne sont pas forcément favorables à l'indépendance, qui veulent aussi revendiquer cette identité-là. Et ce qui est vrai, c'est que le problème est là sur la table depuis longtemps. Alors évidemment, c'est un problème mineur pour l'Europe, mais il serait temps que... Peut-être Madrid, ou du moins le gouvernement actuel, s'attaque au problème et essaie d'avoir des offres positives, peut-être, vis-à-vis de la Catalogne, parce que c'est vrai qu'il n'y a eu que des menaces, et on voit que les menaces, ça ne sert strictement à rien. De dire que la Catalogne indépendante sera comme le Soudan, ça n'a pas de sens. Au même titre, peut-être, de dire que ce sera le Danemark dès demain, pour moi, c'est exagéré aussi.
En tout cas, pour ceux qui veulent aller plus loin sur la Catalogne et les Catalans, je recommande seulement votre livre « Les Catalans » aux ateliers Henri Dougier. Merci à tous les quatre d'avoir été au Carrefour de l'Europe, ici à Barcelone. Merci à l'Institut français de nous avoir accueillis très très gentiment. Réalisation Guillaume Munier, des infos sur nos invités sur la page Carrefour de l'Europe RFI. Vous pouvez réécouter cette émission sur votre ordinateur, votre tablette, votre smartphone via RFI.fr ou les applis mobiles de RFI. Elles sont gratuites. On reste en contact via Facebook et Twitter, bien évidemment. Daniel Escalou, que vous soyez à Barcelone, où vous nous écoutez sur 105.3 FM, si vous êtes ailleurs en Europe ou dans le reste du monde, eh bien je vous donne rendez-vous de toute façon la semaine prochaine. Et tout de suite, un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.